Radio Prague, les informations. Bonjour, le Premier ministre Petr Nečas préfère une aide à la Grèce sans participation tchèque. David et Cameron à Prague ce jeudi pour discuter des problèmes économiques de l'Union européenne. Et puis enfin, tennis, Tomáš Berdych s'est qualifié pour le troisième tour de Wimbledon. La République tchèque préférerait que l'Union européenne aide financièrement la Grèce en puisant dans le fonds de secours de l'euro, c'est-à-dire sans participation tchèque directe, le pays n'appartenant pas à la zone euro. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le Premier ministre Petr Nečas lors de la réunion de la commission parlementaire chargée des affaires européennes. Le chef du gouvernement a justifié sa position en expliquant que 90% des ressources du fonds de secours de l'euro restaient disponibles, tandis que 85% des ressources du fonds de secours européen avait déjà été utilisé. Le Premier ministre britannique David Cameron sera en visite à Prague ce jeudi. Les actuels problèmes économiques auxquels est confrontée l'Union européenne, ainsi que la coopération entre la République tchèque et la Grande-Bretagne dans le domaine de la recherche, figurent au menu de sa rencontre avec son homologue tchèque, Petr Nečas. David Cameron sera également reçu par le président de la République, Václav Klaus. Selon l'agence de presse Reuters, le Premier ministre britannique a indiqué que la Grande-Bretagne n'était pas prête à participer à la deuxième vague d'aide financière à la Grèce au bord de la faillite. La Commission européenne se félicite des mesures d'austérité prises par le gouvernement tchèque dans un rapport qui établit une liste de recommandations au pays. Dans ces recommandations envoyées par Bruxelles en réponse à la politique de convergence et aux réformes entreprises, la Commission européenne estime que la République tchèque, je cite, est sur la bonne voie vers une solution pour régler ses problèmes économiques. Le Premier ministre Petr Nečas, qui a présenté ses recommandations ce mercredi, a précisé que celles-ci mettaient en avant les mêmes priorités que celles de son gouvernement, à savoir discipline fiscale, équilibre budgétaire, baisse du déficit des finances publiques et maintien de la compétitivité. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a critiqué la République tchèque pour le nombre trop important d'enfants placés dans des maisons de l'enfance et autres centres d'accueil, mais aussi pour le temps trop long qu'ils y passent. L'ONU a recommandé à l'État tchèque de soutenir les familles et le placement des enfants dans des familles d'accueil. Par ailleurs, le comité a également appelé à la fermeture des baby box, boîtes à bébés généralement encastrées dans les murs d'hôpitaux qui permettent aux parents en détresse de déposer anonymement leur nouveau-né lorsqu'ils ne veulent ou ne peuvent pas s'en occuper. Enfin, toujours selon le rapport du comité publié ce mercredi, le gouvernement tchèque devrait adopter rapidement des mesures en faveur de l'intégration des enfants roms et handicapés. Plusieurs centaines de personnes ont protesté mercredi après-midi dans le centre de Prague contre l'augmentation prévue par le gouvernement du taux de TVA sur les livres et les publications. Afin de financer la réforme des retraites, la coalition gouvernementale prévoit un passage du taux de TVA de 10 à 17,5% dans les deux prochaines années. Sous le slogan « N'imposez pas la lecture, n'imposez pas les informations », les manifestants ont appelé le gouvernement à revenir sur sa décision et à mettre en place une exception pour le monde de l'édition. La manifestation était organisée par la Fédération des librairies et éditeurs tchèques sur Internet. L'appel lancé par la Fédération a été signé par près de 160 000 personnes. On passe au sport et au tennis. Tomáš Berdych s'est qualifié pour le troisième tour de Wimbledon mercredi après-midi en battant le Français Julien Beneteau en 3-7, 6-1, 6-4, 6-1. Et en football, l'équipe de République tchèque affronte la Suisse, elle, en demi-finale du championnat d'Europe Espoir, ce mercredi soir au Danemark. En cas de victoire, les juniors tchèques seront qualifiés pour le tournoi des Jeux Olympiques de Londres en 2012. L'autre demi-finale mettra aux prises l'Espagne à la Biélorussie. Les deux équipes battues disputeront un match pour la troisième place, elle aussi qualificative pour le tournoi olympique. Le seul et unique titre de champion d'Europe Espoir pour la République tchèque remonte, rappelons-le, à 2002. On termine avec un mot de météo. C'est un temps très nuageux qui règne sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Zdenka. Des averses ainsi que quelques orages sont prévus essentiellement dans la moitié est du pays. Les températures, elles, sont en baisse et varient entre 18 et 24 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Magdalena Rosinkova pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et merci à Guillaume Narguet pour ce bulletin d'information. À la une de l'actualité, l'état des droits de l'homme en République tchèque. Dans son rapport annuel, le comité tchèque d'Helsinki a critiqué notamment le système pénitentiaire. Nous parlerons ensuite d'une exposition moderne et interactive consacrée au compositeur Antonín Dvořák. Elle est à voir actuellement à Prague. Dans son rapport annuel publié cette semaine, le comité tchèque d'Helsinki a critiqué l'état des droits humains et sociaux en République tchèque. L'ONG basée à Prague et qui travaille à la défense des droits de l'homme a notamment pointé du doigt la hausse des inégalités économiques ou encore l'état déplorable du système pénitentiaire tchèque. Un point positif ressort néanmoins du rapport, l'action volontariste des autorités quant à leur lutte contre les extrémismes. Pierre Maignan.
Le comité tchèque d'Helsinki est une ONG qui existe depuis novembre 1988. Elle se veut à l'époque un complément à l'action des membres de la charte 77. Son but est alors de veiller au respect des droits de l'homme tels qu'ils ont été exprimés lors des accords d'Helsinki de 1975 signés par la Tchécoslovaquie communiste. L'ONG poursuit aujourd'hui son action et surveille entre autres les droits des enfants, les droits des étrangers et leur intégration dans la société tchèque, les droits de la femme ou encore le fonctionnement de la justice et du système pénitentiaire. Or, le dernier rapport publié par le comité est globalement pessimiste quant à l'état de la plupart de ces droits en République tchèque. La montée des inégalités constitue la première source d'inquiétude de l'organisation. Le nombre de personnes au seuil de la pauvreté est en augmentation. Cette hausse serait due aux mesures d'austérité prises par l'actuel gouvernement, qui, pour faire face à la dette des comptes publics, réduit nombre de prestations sociales. Vice-président du comité tchèque d'Helsinki, František Valeš, nous fournit quelques précisions sur ce phénomène de paupérisation qui concerne de plus en plus d'individus.
Les enseignements qu'il faut tirer de cette étude, c'est que par exemple, depuis 2007, le revenu minimum d'existence n'a pas été revalorisé. Il faut retenir que les personnes qui sont au chômage sur la longue durée ou les personnes qui n'ont de fait pratiquement aucune chance d'acquérir un emploi n'ont pas ou peu la possibilité d'avoir accès à des prestations sociales. Ces prestations sociales qui sont fournies en fonction du revenu minimum d'existence, lequel plafonne à 3126 couronnes, ne permettent pas de satisfaire les besoins élémentaires de l'individu qui se trouve à la limite de la pauvreté.
Outre ces défaillances de l'état social, les auteurs du rapport regrettent l'absence d'une loi qui fixerait les conditions d'accès aux logements sociaux. František Valeš insiste sur le fait qu'une telle loi existe dans la plupart des autres pays de l'Union européenne.
Ce qui se fait en règle générale, c'est que les gens qui ne peuvent pas se permettre de louer des logements standards ont l'assurance que l'État leur fournisse certaines possibilités afin qu'elles puissent tout de même accéder à un logement. Il faut ici souligner qu'une assez vaste analyse concernant ces questions du logement social a été réalisée l'année dernière, analyse qui a porté son lot de recommandations quant à l'orientation à prendre en matière de politique du logement.
Ces recommandations n'ont pour l'instant pas trouvé écho dans la sphère politique. D'autre part, le rapport est alarmant sur la situation critique des prisons en République tchèque. Plus de 23 000 personnes purgent actuellement une peine d'emprisonnement dans un des établissements pénitentiaires du pays, lesquels ont une capacité d'accueil de 17 500 places. Le taux d'occupation des prisons tchèques est ainsi supérieur à 130%. Un point positif ressort tout de même du rapport. Les efforts des autorités publiques pour lutter contre toutes les formes d'extrémisme sont ainsi salués par le comité tchèque d'Helsinki. Ces efforts se sont notamment concrétisés par le vote d'une loi contre les discriminations, qui fonctionne plutôt bien selon František Valeš, et qui permet notamment de mieux lutter contre les groupuscules néo-nazis. Cependant, le rapport s'inquiète de la nomination de Ladislav Batora au poste de conseiller du ministre de l'Éducation. Un homme proche de l'extrême droite et qui se définit lui-même comme un fervent opposant à toutes les valeurs humanistes héritées de la philosophie des Lumières.
Le musée de la musique présente jusqu'au 29 février 2012 une exposition à l'occasion du 170e anniversaire de la naissance d'Antonín Dvořák, le plus célèbre des compositeurs tchèques. Anna Kubišta a visité cette exposition un peu différente.
Oui, en effet, Magda, c'est une exposition qui se veut plus moderne et plus interactive pour attirer le public. Et j'ai justement parlé avec une de ses commissaires, Eva Velická. On l'écoute.
My představujeme samozřejmě Dvořáka jako geniálního skladatele.
Nous présentons évidemment Dvořák comme le compositeur de génie qu'il était, mais ce n'est pas la peine de le répéter, tout le monde le sait. Nous avons surtout essayé de le présenter en tant qu'homme, en tant que personne. Nous présentons donc différentes petites histoires de sa vie, ses lettres, autant de choses qui montrent son caractère. Tout cela nous rend plus proches encore qu'à travers sa musique.
Rien a priori ne prédestinait Antonín Dvořák, fils de boucher, né en 1841 dans un village non loin de Prague, à la carrière exceptionnelle qui en fit le compositeur tchèque le plus connu au monde. Lui qui aimait plus que tout son pays natal, ses paysages et sa nature, passa quelques années de l'autre côté de l'Atlantique, d'où il tira son œuvre la plus connue, la Symphonie du Nouveau Monde. La partition d'origine du plus grand tube de Dvořák est d'ailleurs exceptionnellement présentée au musée, qui s'est attaché à retracer le destin digne d'un film hollywoodien de Dvořák. Amoureux de la nature, Antonín Dvořák passait des heures à se balader en Bohême et puisait son inspiration dans le monde qui l'entourait. Eva Velická.
Le thème de la nature est présent à plusieurs reprises dans notre exposition. Dans la première partie, nous traitons notamment du thème de Dvořák, le promeneur. Nous y évoquons son amour des balades dans la nature ou à Prague. On sait qu'il aimait le calme, le chant des oiseaux. Sur le continent américain, il admirait les chutes du Niagara. Il appréciait certains lieux totalement différents de ce qu'il connaissait chez lui. Il est difficile de dire précisément dans quelle mesure tout cela se retrouve dans ses compositions, mais son amour de la nature est en tout cas bien présenté dans l'exposition.
Et s'il appréciait avant tout la douceur et le calme d'un foyer, Antonín Dvořák n'en était pas moins un homme de son temps. On peut ainsi se demander si sa fascination pour les trains s'est exprimée dans sa musique. Eva Velická.
Dvořák avait en effet une passion pour les trains et de manière générale pour les nouvelles technologies de l'époque. En Amérique, s'il n'avait pas l'occasion d'observer les trains, il allait observer les bateaux. Dans notre exposition, nous reproduisons une partie d'un wagon. Nous avons cherché en effet à savoir s'il existait un document prouvant clairement qu'une de ses compositions a été inspirée par ce monde technologique. On entend parfois parler de son humoresque, mais nous n'avons aucune preuve. Il y a certes une petite note sur la partition de la 7e symphonie, mais sinon on peut essayer d'imaginer ça et là où le rythme du train a pu l'inspirer. On fait écouter aux visiteurs son humoresque, à eux de juger, mais il est difficile d'établir un lien clair.
Design qui se veut résolument moderne, objet d'exposition manipulable, coin pour enfants, partition musicale ou encore toche de Cambridge à essayer soi-même, les commissaires de l'exposition ont visiblement tenté de rapprocher le public profane du monde de la musique classique et de l'un de ses grands représentants qui peut parfois paraître éloigné, voire intimidant. D'ailleurs, des concerts suivis d'explications de musicologues sont prévus tout au long de cette saison de Dvořák au musée. On regrettera cependant que tant de bonne volonté manifeste achoppe comme souvent à un manque de moyens supplémentaires, tant Antonín Dvořák et sa personnalité manifestement riche et multiple mériteraient une exposition encore plus développée.
C'était Fais événements en République tchèque, place maintenant à l'histoire sur Radio Prague. 390 ans se sont écoulés le 21 juin depuis l'exécution des 27 seigneurs tchèques protestants, leaders de l'insurrection contre le pouvoir catholique des Habsbourg. Leur décapitation met un point final symbolique à la défaite de l'armée protestante tchèque par les impériaux à la bataille de la Montagne Blanche le 8 novembre 1620. Les conséquences pour la nation tchèque sont lourdes. La liberté de confession garantie par la lettre de majesté de 1609 est supprimée. La contre-réforme progresse. La germanisation s'intensifie. Le droit des Habsbourg au trône de Bohême devient héréditaire. Une cérémonie en mémoire de cet événement fatidique de l'histoire tchèque s'est déroulée ce mardi après-midi en l'église Saint-Nicolas, place de la Vieille Ville, lieu de l'exécution des 27 seigneurs tchèques. Jarka Gisuplova y a assisté.
Chapitre de l'histoire.
Dans
des représentants des églises, de la vie politique et culturelle, des descendants des martyrs exécutés et ceux des expatriés après 1620, réunis au sein de l'association Exulante, étaient présents à l'église Saint-Nicolas, à la cérémonie commémorant la mort glorieuse des 27 représentants de l'opposition protestante, qui ont perdu leur combat contre la répression de la tolérance religieuse et pour la liberté de conscience. Leurs noms sont inscrits sur une plaque commémorative sur le mur de l'ancien hôtel de ville de la vieille ville, devant lequel 27 croix en pierre blanche encadrées dans le pavage marquent le lieu de l'exécution. Parmi ces noms, celui de Václav Budovec de Budov, diplomate et politicien issu d'une famille noble tchèque, membre de l'unité des frères, auquel un hommage spécial a été rendu cette année par Arnoš Weizr, maire de Mnichovo Hradiště, une commune près de Prague où Václav Budovec possédait un domaine.
Na počátku 17. století veřejně vystoupil proti pronásledování.
Au début du XVIIe siècle, Václav Budovec se positionne ouvertement contre la persécution des membres de l'Unité des Frères et en faveur de la reconnaissance des libertés religieuses. En 1609, il s'engage activement en faveur de la publication de la Lettre de Majesté. Dans les années 1618 et 1620, il est l'un des meneurs de l'opposition protestante des États tchèques. L'électeur palatin protestant, Frédéric V, élu roi de Bohême, charge Václav Budovec des fonctions de chancelier et de président de la cour d'appel. Après la défaite des États à la Montagne Blanche et l'avènement de Ferdinand II de Habsbourg au trône, Václav Budovec est exécuté sur la place de la vieille ville et ses biens sont confisqués.
L'importance de la lettre de majesté a été évoquée lors de la cérémonie par Jakub Trojan, professeur de la faculté théologique évangélique. Pour ce dernier, la période entre la promulgation en 1609 de ce décret garantissant la liberté de confession et la décapitation des seigneurs en 1621 a marqué un court épisode de l'entière liberté religieuse et civique sur notre territoire.
Jde o jedinečný dokument náboženské svobody, který byl s předstihem.
Il s'agit d'un document unique adopté sur le sol tchèque qui a devancé d'un demi-siècle le reste de l'Europe, bien que son adoption ait été dans une certaine mesure imposée à l'empereur déjà malade et affaibli. Il représente, au terme du langage actuel, une activité œcuménique commune de trois communautés religieuses qui s'étaient constituées et qui avaient coexisté au sein du royaume de Bohême, l'unité des frères, les calixtins, utraquistes, communiant sous les deux espèces, et les catholiques romains alors minoritaires. La lettre de majesté éditée en 1609 garantit la liberté de confession à tous les niveaux, pas seulement des nobles et des ecclésiastiques, les adhérents des trois confessions dans cette petite partie de l'Europe, quelle que soit leur origine, les seigneurs aussi bien que les simples sujets bénéficient de cette liberté de confession.
La défaite des États tchèques à la Montagne Blanche a marqué le début pour la Bohême d'un âge sombre, souvent désigné comme l'ère des ténèbres. Pour l'Europe, c'est le début de la guerre de 30 ans. La fameuse défenestration de Prague est un prélude à ce conflit. En mai 1618, la Diète de Bohême se réunit pour s'entendre sur la façon de procéder contre le durcissement de la politique pro-catholique. Une centaine d'aristocrates les plus indignés envahissent alors la chancellerie du château, sur quatre lieutenants-gouverneurs, délibérant dans la salle de Slavata et Martinitz, ainsi qu'un secrétaire Fabricius, sont jetés par la fenêtre dans les fossés du château. L'empereur habsbourgeois est dépossédé du trône, les insurgés élisent à sa place l'électeur palatin Frédéric V, leader des protestants allemands. Mais le succès des États tchèques n'est que de courte durée. Le chef des armées impériales, comte Valon, Jean de Tilly, est envoyé à Prague pour intervenir contre les insurgés. Les États tchèques sont écrasés sur une colline aux environs de Prague appelée Montagne Blanche, Bílá hora en tchèque. À qu'après la bataille, les non-catholiques sont victimes d'une féroce répression exercée par Ferdinand II de Habsbourg. 61 opposants sont arrêtés. Le 19 juin 1621, le tribunal, présidé par le nouveau lieutenant-gouverneur Charles Ier de Liechtenstein, prononce le verdict. 30 hommes sont reconnus coupables. 27 d'entre eux entendent le verdict capital. 3 sont chassés de Prague. Le bourreau Midlach, utraquiste, achève son œuvre avant midi, le 21 juin 1621. 3 parmi les 27 hommes exécutés sont des aristocrates. Václav Budovec de Budov, Joachim Andrzej Schlick, recteur de l'université de Jena, puis juge suprême des pays tchèques, et Krzysztof Harant de Polžice et Pestružice, diplomate, explorateur et compositeur. 7 sont des chevaliers, les 17 autres des bourgeois. Les têtes des opposants exécutés sont accrochées en haut de la tour de l'hôtel de ville de la vieille ville, en signe d'avertissement. Ce n'est que 10 ans après qu'elles seront enterrées dans la crypte de Notre-Dame de Tignes, d'où elles disparaîtront un an après dans des conditions mystérieuses. Après l'exécution des meneurs de l'opposition protestante, la noblesse tchèque est dépossédée de ses terres au profit de petits nobles catholiques, de souche allemande notamment, observe pour sa part Antonín Kostlan de l'Institut d'histoire moderne de l'Académie des sciences.
D'importants transferts des biens ont touché pas moins de 700 familles aristocratiques en Bohême et 300 autres en Moravie. Entre la moitié à un tiers des domaines et des possessions foncières ont changé de propriétaire. Celui qui en bénéficie le plus n'est ni l'empereur, ni le fisc impérial, ni le clergé nouvellement constitué après la Montagne Blanche. C'est l'Église catholique, des commandants allemands, italiens, espagnols, des armées victorieuses. Et c'est aussi et avant tout la noblesse tchèque, d'anciennes familles aristocratiques, qui ont racheté à des prix sous-évalués près de 60% des biens disponibles. Parmi ces familles, on peut citer Marie Magdalena Trčková ou Polixène de Lobkovic.
Les pays de la couronne de Bohême deviennent une terre d'expatriés après l'exécution des 27 seigneurs. Les prédicateurs protestants sont expulsés, les pratiques utraquistes sont interdites. Le pays perd ses élites nationales et intellectuelles, souligne l'historienne Marie Kolginska.
Les réactions suite à l'introduction de l'ordre provincial rénové en 1627, qui stipule que le catholicisme est la seule confession autorisée dans le pays, sont multiples. De très nombreux protestants quittent le pays pour pouvoir sauvegarder leur foi en exil. D'autres restent et essaient de pratiquer secrètement leur foi chez eux. Et toute une série de personnes concernées optent pour la conversion au catholicisme. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure cette conversion était sincère et à quel point elle était motivée par des pressions extérieures.
On peut dire en général que les pays de la couronne de Bohême ont perdu un quart de leur population suite à la guerre des 30 ans. Les départs en exil ont touché des dizaines de dignitaires ecclésiastiques, des centaines de familles aristocratiques, des milliers de familles de petits bourgeois, d'artisans, de paysans, ainsi que de simples sujets. La constitution rénovée de 1627 retire aux États tchèques le droit théorique d'élire le roi de Bohême. Les Habsbourg obtiennent la couronne de Bohême à titre héréditaire. La domination habsbourgeoise sur les pays tchèques commencée en 1526 est confortée et durera en total pendant plus de 3 siècles.
C'est la fin du programme de Radio Prague en langue française. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková.